Merci à tous ceux qui viennent d'arriver. On va parler maintenant des obèses. Il y en a de plus en plus de gens là, qui sont en surpoids. On sait que l'obésité, c'est un gros, gros, gros problème. C'est un enjeu de santé publique, on le dit de plus en plus, avec tout ce que ça veut dire aussi de se mettre au régime, d'essayer un peu de pour sa santé, d'abord et avant tout. Pour bien des gens, c'est aussi une question d'apparence corporelle. On le comprend. Quand on pèse 300, 350 livres, 400 livres parfois, la vie est difficile à vivre. C'est lourd à porter, c'est le cas de le dire. Et il y a des obèses de plus en plus qui se soumettent à des régimes drastiques et également à des opérations comme des chirurgies bariatriques, mais qui regrettent finalement dans les mois qui suivent, dans les années qui suivent, parce que, un, ils ont repris leur poids, ou deux, qui se ramassent avec des problèmes de santé, des fois plus graves que ce qu'ils avaient avant, ou des chairs pendantes. C'est un peu le cas de mon prochain invité, Jordan Dupuis, que vous connaissez bien parce qu'il est collaborateur chez nous ici au 98.5, chroniqueur sur Bien, une émission de bien-être à TVA. Il est aussi ambassadeur ANEB, Anorexie Boulimie Québec, parce qu'il y a eu des problèmes de troubles alimentaires dans sa jeunesse. Merci d'être là, Jordan Dupuis.
Bien, merci, Isabelle, de parler de ce sujet-là qui est assez complexe.
Parce que, en fait, c'est vrai, tu me disais, ça fait plusieurs fois qu'on s'est parlé de ça ensemble, je me disais, il faut vraiment qu'on parle de ça. En fait, tu m'avais dit à un moment donné, si j'avais su, là, je serais resté gros.
Ouais.
C'est pas rien de dire ça, Jordan.
Ouais.
Explique-nous un peu d'où tu parles, parce que tu as déjà pesé 335 livres,
ouais.
Tu as perdu plus de 185 livres, donc tu as perdu plus de la moitié de ton poids.
Ouais.
Et aujourd'hui, t'as l'impression que ton corps est encore imparfait. T'as l'impression que finalement, t'as tout fait ça quasiment pour rien parce que t'as encore un rapport, entre guillemets, c'est ton terme, fucké avec ton apparence corporelle.
Ouais, c'est vraiment un livre particulier que j'ai écrit pour ma vie. C'est... Moi, j'étais très jeune, obèse et tout ça. Et dans la jeune vingtaine, j'ai rapidement pesé en haut de 250, 300, jusqu'à me rendre à 335 livres. Et dans la jeune vingtaine, bon, j'étais malheureux. J'avais une apparence qui était vraiment disgracieuse. J'avais un tablier graisseux, donc une bavette. J'avais d'énormes seins de personnes obèses, ce qui est tout à fait récurrent chez certains hommes. Et j'ai subi plusieurs chirurgies esthétiques, donc mastectomie, donc retirer les glands de ma mère du sein, deux fois liposuction des seins dans la jeune vingtaine pour ensuite me faire retirer le tablier. Donc, en apparence, évidemment, ces chirurgies-là, je ne les regrette pas parce qu'elles m'ont permis de survivre à dans un moment où j'avais besoin de me sentir mieux, etc. Mais ce que je regrette cependant, c'est l'importance que je leur ai accordée. J'ai compris par après que ben tu peux m'avoir les chirurgies esthétiques que tu veux, tu peux m'avoir la chirurgie bariatrique que tu veux, parce qu'en 2012, j'ai eu l'anneau gastrique pour réduire, en fait, l'anneau gastrique versus la réduction de l'estomac, c'est qu'on insère un anneau autour de l'estomac qui empêche l'absorption de nourriture, en fait, la quantité de nourriture. Donc, c'est un peu un effet d'entonnoir. J'ai eu énormément de complications. On a dû le retirer. Ensuite, on m'a réduit l'estomac. Bref, je me suis rendu compte que finalement, le parcours était trois fois plus difficile que
le chemin pour devenir gros, mettons.
Oui, exactement, ouais. Tout à fait. Et j'ai surtout compris que ça n'avait absolument rien à voir avec la chirurgie esthétique ou la chirurgie bariatrique. En fait, c'est que j'étais malade. J'avais besoin d'aide. L'hyperphagie, c'est ce trouble alimentaire qui fait en sorte que tu manges des quantités astronomiques et phénoménales. Si à 25 ans, tu pèses 335 livres, tu as clairement une relation trouble avec la nourriture. Vous enlevez le foie à un alcoolique, il va toujours avoir le goût de boire quand même. Donc, si vous retirez une partie de l'estomac, un obèse qui souffre d'un trouble alimentaire, ben il a quand même le goût de manger.
Donc, mais toi, ton anneau gastrique là, qui réduisait donc ton estomac, qui faisait en sorte que quand même tu mangeais la nourriture, elle passait pas parce qu'il n'y avait pas de place dans ton estomac.
Exactement.
Est-ce que ça t'enlève quand même, ça t'enlève pas le goût de la bouffe?
Absolument pas. En fait, le trouble alimentaire s'adapte à ta nouvelle condition. Donc, moi, finalement, je mangeais compulsivement. C'est pulsions-là, qui sont des pulsions de santé mentale, hein, parce qu'on parle ici d'un trouble alimentaire, ben finalement, je mangeais, je vomissais. Donc, finalement, cette hyperphagie-là s'est transformée en boulimie.
Tu te faisais vomir?
Ben je vomissais de façon naturelle parce que l'estomac était rendu trop petit. Ensuite, ben je mangeais, puis je digérais dans l'œsophage durant la nuit, je me réveillais, j'avais des vomissements, tout ça. Donc, il y a eu plein de problèmes de santé qui ont été reliés. Et surtout, ben c'est que quand tu perds pas du poids, parce que les chiffres approximatifs, c'est à peu près 30% des personnes qui ont subi une chirurgie bariatrique qui récupèrent du poids ou presque la totalité de leur poids.
Ou plus gros même.
Au plus gros. Imagine, Isabelle, le sentiment d'échec que tu subis après ça. Imagine, tu te dis, ben je passais à travers des chirurgies esthétiques, je passais à travers une réduction de l'estomac, je posais et on me dit, le système de santé me dit, ben t'es supposé de perdre ton poids, puis finalement, tu maigris pas. Donc, le cercle vicieux embarque encore et encore. Donc,
Toi, t'as maigri, Jordan, puis aujourd'hui, on te regarde, on pourrait jamais savoir, un, que tu as déjà pesé 335 livres, puis deux, que tu as un problème de chair pendante aujourd'hui qui te pollue la vie.
Qui me pollue la vie. Et là, ça, c'est le dossier que je dois régler cette année parce que là, tu l'as mentionné d'entrée de jeu, je suis ambassadeur anorexie boulimie Québec. J'ai réglé mon trouble alimentaire. Je me considère en rémission.
Ouais.
Donc, c'est toujours... pour moi,
en tout cas, si on règle ça à vie, hein?
Ben, tu sais, il y en a qui s'en sortent pleinement. Moi, et je parle pour moi parce que je suis pas les autres. Tu sais, des fois, ça se repointe, hein, un peu comme un 18 roues qui recule dans la cour. Sauf que là, maintenant, j'ai les outils pour faire, sais-tu quoi? Aujourd'hui, des lots de dons, juste le tiers de ton stock. Ou, ben, retourne-toi-en chez vous, tu sais. Fait que je suis capable de le voir arriver.
Capable de le gérer.
De le gérer. Ouais.
J'ai mais quand tu manges du gâteau, est-ce que tu te sens mal pendant 24
non,
heures?
Non, parce que maintenant, la notion d'aliment interdit n'existe plus pour moi. Il n'y a pas d'aliments qui sont interdits. Il y a juste l'importance ou la relation qu'on leur accorde.
Tu manges du gâteau?
Ah, j'en mange plein. Ouais. J'ai un beau Paris-Brest dans le sac ici.
Hein? 450 calories!
Oui, puis je vais le savourer, puis je vais l'aimer. Mais par exemple, à l'époque, je me serais empêché de manger le Paris-Brest. Ben, 3 jours plus tard, j'en aurais mangé 5. Ou sinon, j'aurais mangé autre chose pour compenser.
Ouais.
Donc, il n'y a plus d'aliments
interdits. Tu dis
interdits.
Ça, tu l'as réglé. Ouais.
Ça, j'ai réglé ce sentiment de culpabilité envers les aliments.
Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Quand tu dis, si j'avais su, je serais resté gros parce qu'aujourd'hui, je ne m'aime pas mieux. Fait que tout le travail, toutes ces opérations, puis depuis janvier 2017, tu dis, j'ai jamais été aussi malade.
Ouais, exact.
C'est quand même un sentiment fort.
En fait, j'aurais... si on m'avait dit, écoute Jordan, il y a des, et puis on ne sait pas parce que, tu sais, je veux dire, on ne contrôle pas l'avenir, etc. Mais si on m'avait dit, écoute, avant d'envisager tout ça, là, toutes ces chirurgies-là, tout ce traitement-là, parce que, mine de rien, c'est extrêmement difficile sur mon corps. Je suis en ce moment extrêmement malade, tu le sais, au niveau digestif, c'est problématique. J'ai une partie de l'intestin que j'ai plus, il y a plein de problèmes, on va retirer la vésicule biliaire. Tout ça, là, c'est des enjeux de santé qui sont importants et qui vont me suivre toute ma vie. Je ne regrette pas l'avoir fait, mais ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est peut-être, écoute, avant d'aller à travers tout ça, là, essaye donc de...
Maigrir par toi-même, tu veux dire?
Oui, et la thérapie, tu sais. Puis, est-ce que j'aurais subi toutes ces chirurgies esthétiques-là? Je ne pense pas. Est-ce que j'aurais eu une
donc,
chirurgie...
Donc, tu regrettes?
Je regrette la relation que j'ai eue avec ces chirurgies-là. Parce que moi, je ne suis pas anti-chirurgie esthétique. Là. Je suis vraiment pro-chirurgie esthétique. Il faut juste être conscient qu'on le fait. T'sais, la petite fille de 17 ans, 18, qui veut se faire faire le nez, ben, et puis qui pense que ça va changer sa vie puis que soudainement, elle va être la plus belle de l'école ou de son université, ben, ce n'est pas ça le problème. C'est ta personnalité. T'sais, travaille là-dessus. T'sais, donc, c'est de mettre de l'importance sur quelque chose qui n'en a pas. La chirurgie bariatrique, c'est une chirurgie qui est extraordinaire, mais qui doit être accompagnée d'un suivi.
Puis on sait qu'au Québec, ça, les suivis
y en
post-chirurgie bariatrique sont à peu près inexistants.
Quand j'ai eu ma chirurgie bariatrique, Isabelle, là, tu vas capoter. Le seul suivi nutritionnel que j'ai eu, c'est un appel téléphonique de l'hôpital du Sacré-Cœur qui me dit « Bonjour, M. Dupuis. » Je dis « Bonjour. » Donc, c'est ça. Donc, je suis la nutritionniste du département du bariatrique. Parfait. Donc, je vous appelle aujourd'hui pour... je vous appelle pour quelle raison?
Genre... Arrête! Elle savait pas pourquoi t'appelais?
Ouais. J'ai dit, ben, savez-vous quoi? J'ai dit, c'est correct. Je vais m'arranger.
Laissez faire, raccrocher. Merci
j'ai
beaucoup.
Raccroché.
Bonne journée.
Et de mon côté, puisque je savais dans quoi je m'embarquais avec un système de santé où il n'y a pas de suivi, puis il n'y a pas de ressources, ben, je m'étais arrangé parce que je suis une personne qui est allumée, etc., qui a un réseau. Je me suis trouvé une nutritionniste dans un CLSC qui me fait rentrer, etc. Mais sinon, je me mets dans la place d'une personne qui est démunie.
Non, mais attends, Jordan, elle ne savait pas pourquoi
elle savait pas.
C'est pas toi qui avais appelé puis attrapé.
Non,
pas,
elle, dans son suivi, c'était écrit appeler Monsieur Dupuis.
Ouais.
Elle avait fallu, je lui dis, c'est ça, donc j'ai subi la chirurgie bariatrique. Ah, parfait. Donc là, elle m'aurait fait, elle avait un 15 minutes à m'accorder. Je lui dis, savez-vous quoi, gars?
Laissez faire.
J'étais déjà pas mal informé, là. Il y a Google. Rendu là, il y a Google, tu sais. Donc, il n'y a pas de suivi.
Oh mon Dieu, mais c'est pathétique, Jordan.
Mais c'est pathétique et c'est surtout qu'on investit cet argent-là dans des chirurgies qui coûtent extrêmement cher au système de santé et qui, lorsqu'elles sont prises dans un contexte global avec un suivi psychologique, avec un accompagnement avant-après, ben qui ont un taux de succès extraordinaire. Mais quand on fait pas le suivi de sa toiture de maison, ben ça finit par couler. Donc, c'est la même chose. Et c'est ce que je déplore, en fait, c'est que le problème d'obésité, de troubles alimentaires, c'est complexe. C'est pas comme un cancer.
Mais ton rapport avec ton corps aujourd'hui, tu dis, j'ai jamais été aussi complexé de mon corps qu'en ce moment. Même quand je pesais 335 livres, au moins, j'avais l'air de ce que j'étais.
Mais
aujourd'hui, tu m'as déjà dit, par exemple, quand tu sors puis que tu rencontres des gens... T'as pas l'air d'un gars qui traîne des chairs pendantes de plusieurs kilos.
Moi, j'ai besoin d'un redrapage complet. Donc, ce qui veut dire un redrapage de l'abdomen, un redrapage, une reconstruction du fessier. J'ai rencontré une chirurgienne plasticienne en janvier, justement, parce que tous les muscles sont atrophiés. On va faire un beau résumé, Isabelle. Ouais. Avant, quand je couchais avec quelqu'un là, à 335 livres, là, la personne le savait.
Que t'étais gros.
Que couchait avec quelqu'un à 335 livres. Là, il y avait un malaise à gérer ça, etc. Évidemment, est-ce que c'était la personne avec qui j'avais envie d'avoir une relation sexuelle? Ça, c'est autre chose, parce qu'évidemment, tout va en fonction de l'estime de soi. Maintenant, oui, je suis physiquement beaucoup plus attirant selon les normes de standards de beauté.
Mais t'es mince, t'es vraiment mince. T'es même...
un petit peu trop maigre.
Oui, mais bon, ça...
Peux-tu croire, je suis rendu au point, je prendrais 20 livres de plus. Bref, et maintenant, aujourd'hui, c'est que lorsque je me fais séduire, mon corps, il y a une histoire que je ne peux pas cacher. Donc, je me
sens... Mais est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit... Oh mon Dieu, tu viens d'enlever ton chandail, c'est quoi ça qui pend?
Ben, il se pose des questions. Ça m'est arrivé et je dois faire une mise en contexte que je n'avais pas à faire avant. Donc, mon corps, il y a une histoire. J'enlève mon chandail, je suis. Je veux dire, j'ai l'air d'un rideau de théâtre, là, tu sais. Et je sais que c'est temporaire et j'accepte que mon corps a cette histoire-là et je l'aime, ce corps-là, et je l'aime plus que jamais, mais il me rappelle toujours d'où je viens et ce que j'ai vécu, et j'en ai marre de ça. Et je comprends pas pourquoi que...
Tu dis fait... j'aime mon corps, mais tu t'aimes pas ton corps, Jordan.
Ben, j'aime pas son esthétique, mais je le remercie de m'avoir apporté, de me soutenir si longtemps. Je l'ai tellement malmené, Isabelle, ce corps-là, là, que je le remercie d'être encore là, puis d'être encore pas mal assez en santé.
Ça, malgré, il faut faire ça.
Malgré ouais. tout ce que j'y ai fait subir, tu sais. Sauf que je comprends pas pourquoi qu'on opère des gens obèses, sachant qu'ils vont avoir besoin d'un redrapage, ou etc., et que ça fait pas partie d'un tout. Je veux dire, le gouvernement refait le sein d'une dame qui a eu le cancer pour l'esthétisme et pour l'image corporelle, ce qui est tout à fait normal. Pourquoi pas dans ce cas-là?
C'est une bonne question. Puis sincèrement, on la pose depuis des années. Parce que t'es pas le seul, Jordan, à avoir demandé ça. Il y en a eu des cas de gens, parce qu'après une chirurgie bariatrique, entre autres, beaucoup de gens ont des problèmes de chair pendante.
Ben, j'ai-tu 30 000, moi, tu penses?
Et ça coûte effectivement très cher. Et là, on dit, ben, la suite logique voudrait que ça fasse partie du problème de santé. Là, il y a des gens qui disent, bon, ben, en même temps, on va-tu payer? On se met à payer tout, tu sais. Mais disons que si tu acceptes de payer la chirurgie bariatrique de gens qui ont un gros problème d'enjeu de poids, faut aller jusqu'au bout. Ben, tu peux pas laisser tomber ces gens-là comme toi. Après, en disant, arrange-toi que tes chairs pendantes puis tes fras opérés, parce que c'est pas considéré important.
Parce que c'est considéré esthétique, mais tu as tout à fait raison, Isabelle. Puis l'affaire, c'est que au lieu d'opérer n'importe quelle personne qui a un problème de poids sans suivi psychologique, opérez-en peut-être moins.
Et faites un suivi nutritionnel, psychologique après aussi.
On me dit peut-être qu'on va. Je veux dire, c'est la même chose pour les personnes trans qui ont suivi psychologique avant d'avoir un changement de sexe. Tu dois avoir une approbation pour dire, écoute, oui, on pense en effet, médicalement parlant, que tu te sens dans un autre corps et qu'on est prêt à envisager la chirurgie. Pourquoi ça serait pas ça? Tu te fais opérer, tu as un suivi nutritionnel, psychologique, puis au bout de 2 ans, mais parfait, si ton poids est stable, tu as réglé tout ça. Go, on y va, tu sais.
Mais justement, hier, j'avais la transsexuelle Gabrielle Marion, là, qui vient de sortir un livre là-dessus, et elle me disait, le gouvernement a payé pour sa vaginoplastie, donc pour le fait qu'on enlève son pénis, qu'on le remplace par un vagin, mais tout le reste, c'était elle qui a payé toutes ses chirurgies pour devenir la femme qu'elle est, là.
Ouais, ouais.
Et, alors...
Et puis je la comprends.
En même temps, il y a bien des gens qui ont dit, ben là, c'est normal, on ne commencera pas à payer toutes sortes d'affaires à tout le monde, tu sais. Mais je pense que c'est plus relié au fait que c'est une question de genre. Il y a des gens qui sont offusqués par ça. Dans le cas de l'obésité, ça touche tellement de monde.
Ben, c'est parce qu'Isabelle, combien que moi, je coûtais au gouvernement en tant qu'obèse? Ben, je faisais de l'hypertension, j'avais des problèmes de santé, je me ramassais à l'hôpital pour des crises de vésicule biliaire, etc., etc. Maintenant, j'ai pris, et à mes frais et sur mon initiative personnelle, de régler ce trouble alimentaire-là, de prendre soin de ma santé. Puis maintenant que je suis un citoyen qui coûte plus rien à l'État, ben on m'abandonne. Quand j'aurais pu bien rester gros, puis je veux dire, j'aurais encore continué de coûter des choses.
Et tes chairs pendantes deviennent un problème de santé.
Ben vraiment. Vraiment, je dois reconsulter pour comprendre, pour faire le lien avec ça. Là.
Il va avoir mais ça te crée même des irritations. Tu as des problèmes dermatologiques, toutes sortes de... Bon, alors ça, faut s'en occuper. On va s'arrêter ici. Ça fait beaucoup réagir. Je reçois beaucoup de courriels là-dessus. Vous pouvez m'écrire à isabelle@985fm.ca. Évidemment, mes Facebook, isabelle985, vous pouvez aller là-dessus. Isabelle Maréchal officielle sur mon Messenger pour m'écrire. Mais surtout, vous pouvez m'appeler au 514-790-9850. Sans frais, vous faites partout au Québec le 1-866 790-9850. Est-ce que vous comprenez effectivement qu'il y a des obèses qui regrettent d'avoir perdu du poids? Si c'est votre cas, si vous avez maigri difficilement, est-ce que vous êtes mieux aujourd'hui qu'avant ou avez-vous toujours cette impression finalement que ça n'a pas beaucoup amélioré les choses pour vous? À tout de suite tout le monde. On voit qu'il y a beaucoup de gens là, qui veulent intervenir là-dessus. On parle du fait que pour beaucoup d'obèses, le fait d'avoir perdu énormément de poids, c'est un problème et les chirurgies ne sont pas évidentes. La chirurgie bariatrique vous laisse avec des chairs pendantes. Vous ne pouvez pas imaginer de quoi ça peut avoir l'air. On comprend que ça peut être un poids. On a avec nous, rappelle-moi le nom s'il te plaît Isabelle, de la personne qui nous appelle. On a avec nous une dame qui a eu une chirurgie bariatrique. Marie-Claude, merci de nous appeler. Bonjour.
Bonjour Isabelle, bonjour Jordan.
Allô Marie-Claude.
Ah, ça fait 5 ans aujourd'hui qu'ils ont bousillé ma vie. Ça fait longtemps que je veux parler à Isabelle et que je veux monter un dossier parce que je trouve qu'ils sont téméraires. Ils sont téméraires de nous embarquer dans quelque chose où il n'y a pas de suivi. Moi, là, j'ai eu une anogastrique. On me l'a enlevé. Donc, en 2013, novembre, ils ont enlevé mon anneau. Là, ensuite, ils m'ont enlevé presque 80% de l'estomac, ce que je ne savais pas, mais je dois ajouter. Oui, parce que c'est ça qu'il faut, Sacré-Cœur. Ils ont fait peur qu'on engraisse. Mais ils me l'ont pas dit. Ils m'ont pas menti. Là, soyons clairs. Ils m'ont pas menti. Ils me l'ont pas dit. Parce qu'à travers le monde, c'est à peu près 66% qu'on retire de l'estomac. Eh bien, c'est ça. Et puis, en Angleterre, on parle, il y a un suivi un an avant et un an après.
Oui, effectivement.
Nous, on est laissé tout seul. C'est sûr qu'à un certain niveau, je ne fais plus d'apnée du sommeil. Mais moi, je ne voulais pas cette chirurgie-là. Sauf que, à Sacré-Cœur, on me disait, l'orthopédiste, dans le temps, qui est retraité aujourd'hui, me disait, quand vous aurez vos genoux, quand vous aurez votre gastrectomie, vous viendrez me voir. Alors, à un bon moment donné, moi, je ne marchais plus. Quand j'ai été le voir, il dit, puis votre gastrectomie. Tout le monde qui me connaisse, là, vont me reconnaître. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire, gastrectomie? Non, même si vous m'arrachez la tête, je ne marcherai pas plus. Parce que, je veux dire, il n'y a rien qui va se régler.
Ouais.
Il faut commencer par arranger mes genoux. Une chance que j'ai fait ça puis que j'ai insisté.
Mais parce que ça finit par être lourd à porter aussi, tout ce poids. Marie-Claude, avant de vous laisser aller, je veux vraiment que vous nous
disiez... Je suis malade, c'est ça le problème. Ouais. Je suis malade comme Jordan.
J'espère, en tout cas, je peux laisser mes coordonnées.
Ce qu'on va faire, Marie-Claude, si vous voulez bien, on va prendre vos coordonnées. Puis on va essayer de faire un suivi sur ce dossier-là, c'est sûr. Combien vous pesiez au début, Marie-Claude?
Oh mon Dieu, j'ai peur de le dire. Mais là, j'ai perdu 135 livres.
Oui, mais au début, vous pesiez combien?
Oh, avant?
Oui.
Oh, j'ai peur de le dire.
Dites-le, on est...
Il n'y a personne qui le sait.
On ne juge pas, Marie-Claude. On ne vous juge pas.
Pas vous autres, mais mes proches. Disons que ça ressemble à Jordan.
Écoutez, il n'y a absolument aucune honte à avoir à ça. Ça fait partie de votre histoire, Marie-Claude. C'est vraiment touchant. Puis j'ai passé exactement, c'est étrange, le même processus que vous, l'anneau gastrique qu'on m'a retiré, parce que c'était une solution qui était abordable et qu'on disait non intrusive. Hein. C'est un anneau de plastique qu'on met autour de l'estomac. Moi, il a bougé. Ça a déformé mon œsophage et tout ça. Donc, je suis vraiment avec vous là-dedans. Ce que je vous dis, c'est que peu importe les ressources que vous avez en ce moment, Marie-Claude, il faut être entouré. Et puis si vous attendez...
Désespéré, Marie-Claude, là, c'est la détresse humaine qu'on entend dans son témoignage. Marie-Claude, restez là, on va prendre vos coordonnées. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous appeler. Carl, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Carl.
Écoutez, je vais peut-être mettre un peu de baume sur les plaies de personnes qui ont eu ce genre-là. Moi, au contraire, ce fut un méga succès. D'ailleurs, je fêtais cette année ma 14e année.
Bravo.
Mais je comprends. Et je comprends peut-être aussi le problème que Jordan a eu. Écoutez, vous parlez tantôt, j'entends parler hôpital Sacré-Cœur. Moi, je suis allé à l'hôpital Laval de Québec et tu rentres là, c'est le Ritz-Carlton. Tu es accompagné. Moi, je me suis préparé en amont. D'abord, ça prend du temps avant d'être opéré, sauf qu'il te rencontre, il t'explique tous les types de chirurgie bariatrique qu'il n'y a pas. Moi, j'ai pas pris de chance. Moi, j'ai dit, je vais me chercher une psychologue parce que je me suis dit, je me prépare avant, pendant, puis après. Et quand j'entends ça, vous êtes laissé à l'abandon, là, écoutez, là, moi, je vous dis, à un moment donné, on est tellement encadré qu'à l'hôpital Laval de Québec, à un moment donné, j'ai dit, là, c'est assez, là. J'ai dit, laissez-moi me reposer.
Ouais. Combien vous pesiez, Carl, au début et combien vous pesez maintenant?
Ben, moi, je pesais 525 la journée de l'opération.
Wow.
Et j'ai perdu environ 350 livres.
Wow!
Carl, c'est extraordinaire comme histoire. J'ai entendu dire justement que l'hôpital à Québec font les choses est extraordinaire. Moi, ça a pris, on m'a jamais appelé de la liste d'attente, tout ça. Mais vous en conviendrez qu'une grande partie de votre succès a reposé sur votre initiative personnelle d'aller chercher de l'aide.
Oui.
Parce que vous êtes allumé, vous étiez...
Oui. Mais moi, en plus de ça, quand je l'ai fait, c'était en 2005. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, à l'hôpital Laval de Québec, ils sont rendus maintenant avec comme une aile spécialisée pour ça. Et jamais, quand tu arrives à l'hôpital Laval de Québec, tu te fais sentir jugé. Ils t'accueillent, puis ils te disent, on va s'occuper de toi, ouais. On va t'aider. Les infirmières, pendant la chirurgie, là, écoutez, là, ils venaient là, me frotter avec de l'alcool dans le dos.
Oh mon Dieu, on n'a pas eu, on n'a pas eu le même.
Hey, on sait, à Québec, c'est pas pareil, hein, Carl? Ouais.
mais le pire, c'est que moi, je suis du Saguenay, puis je suis allé là, et en plus de ça, il y avait même de l'hébergement pour ma mère qui m'a accompagné pendant sept jours, c'est-à-dire. Mm. Puis moi, c'est sûr et certain que toute ma vie, écoutez, moi, c'est sûr que j'ai eu des parents qui m'ont dit, quand tu regardes en avant, puis tu fonces.
Ouais.
C'est toujours ça que j'ai fait. J'ai dit, moi, il faut que je sois en avant, je drive le show, sinon je suis en arrière, puis je fais rire de moi. Ouais.
Merci beaucoup, Carl. Je veux juste parler à Martin Lavoie avant de terminer sur ce sujet-là. Bonjour, Martin.
Bonjour, Isabelle.
Oui, toi, tu as perdu 275 livres, c'est ça?
Oui, c'est ça. Tu m'avais reçu l'an passé, on avait parlé ensemble, puis je disais justement que ça ne rendait pas plus heureux de faire l'opération.
Oui. Comment ça va aujourd'hui?
Ben, j'ai repris une quarantaine. J'ai perdu 275, je faisais 644, j'ai perdu 275, j'ai repris une trentaine de livres, là, comme c'est là. Puis, c'est pas compliqué cette opération-là. Là. Si t'es pas prêt mentalement à la faire, là, elle fonctionnera juste pas.
Mm-hmm.
Elle fonctionnera pas. Moi, quand juste avant que j'aille me faire opérer, quand j'étais dans la salle d'opération, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait que ça fonctionnerait pas. Je m'en doutais parce que c'est ancré profondément en dedans de moi de manger, puis de manger mes émotions, puis de remplir un trou émotif que j'ai pas d'autre solution.
Mais Martin, vous êtes au courant que c'est exactement ce même sentiment que j'avais lorsque j'ai découvert que j'avais un trouble alimentaire. Donc, vous savez que vous avez une relation qui est problématique avec la nourriture. Est-ce que vous êtes allé chercher de l'aide? Parce que vous savez, moi, j'arrête pas de parler à plus de monde possible d'anorexie boulimie Québec. Ça serait peut-être une option. Il y a des psychologues.
C'est sûr qu'il y a la notion de trouble alimentaire, mais là, c'est la notion. Après la chirurgie, c'est vraiment c'est pas la fin de ton problème. Avez-vous des problèmes de chair pendante, Martin? Est-ce que je me souviens plus que ce que tu m'avais dit là-dessus l'année dernière?
Ben j'étais quand je t'avais parlé, j'étais en processus d'en perdre d'autres finalement.
C'est
j'en ai
ça.
Pas perdu d'autres. J'en ai repris un peu, mais, ouais. Mais même quand on s'était parlé, non, ma chair est quand même
pas si mal. Là, Bon. Merci beaucoup, Martin. Puis écoute, bon courage. C'est là la difficulté, Jordan, c'est qu'à un moment donné, tu reprends les livres que tu as perdus.
Ben imaginez.
Fait que là, c'est double sentiment d'échec.
Ben imaginez.
Bang, puis bang.
Ben c'est ça, après ça, t'as pas... Je veux dire, les appels qu'on a reçus représentent vraiment la variété d'approches par rapport à la chirurgie bariatrique. Ouais.
Merci beaucoup, Jordan, d'être venu nous parler. Jordan Dupuis,
merci,
qui est porte-parole d'ailleurs pour ANEB, Anorexie et Boulimie Québec. Aujourd'hui, d'ailleurs, on annonce qu'un premier service de texto au Québec pour aider les jeunes qui ont une relation difficile avec leur corps, avec la nourriture, qui souffrent d'un trouble alimentaire. Vous pouvez texter le numéro 1-800-630-0907. Vous pouvez aller sur le site vraiment de ANEB, A-N-E-B, et vous aurez toute l'info là-dessus. Je pense que c'est un problème vraiment important chez les jeunes, avec les réseaux sociaux, tu sais, on se regarde jamais, on sait autant regarder le nombril puis le reste qui l'entoure. Jordan, merci d'avoir été ici.
Merci de ce
honnête.
Temps.
Merci beaucoup. On s'arrête ici. As-tu changé tes habitudes environnementales, toi?
Bien, j'essaie.
Tu sais qu'on vient de faire un sondage ici à Cogeco Somme. On a demandé aux gens, avez-vous... on voulait savoir au niveau des changements climatiques ce que les gens font. Et si les gens avaient modifié une habitude qui n'était pas écologique pour une bonne habitude.
Et bon, j'ai hâte d'entendre ça.
Ouais.
Oui, je l'ai fait.
Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de
traîner vraiment ma tasse réutilisable, etc.
Ah, c'est bon. C'est très bon.
C'est déjà une chose. Mais quand je sais qu'il y a juste 20% du recyclage de Montréal qui sera en recyclage, ça me décourage un peu.
Oui, il y a ça. Moi, je ne flush plus ma soie dentaire. Il n'y a pas de petit profit. Il n'y a pas de petit profit, mon cher ami. On se retrouve tout de suite après la pause. Restez là, tout le monde. Préparez vos raisons. Là. C'est quoi? Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé ça? Et vous me dites, quelle est la chose que vous ne faites plus qui n'était pas bonne pour l'environnement? À tout de suite.